Bon, je crois que nous allons commencer. On est déjà une demi-heure de retard. Donc, sur la session informatique et communication, nous avons le plaisir de recevoir, mais il ne faut plus la présenter, tout le monde la connaît, Catherine Creusot-Garcher, professeure à Dijon, qui a boosté depuis qu'elle est là le service d'ophtalmologie et qui va nous parler des réseaux informatiques professionnels.
Ce type de réseau, bien sûr.
Tout à fait. Des questions ? Merci Catherine. Donc nous allons passer à la dernière communication de la journée avec le docteur Gilles Munier, qui est médecin généraliste à côté de Verdun, ancien président du CROM, le conseil régional de l'ordre des médecins, et qui est depuis 2013 le conseiller national Lorraine au conseil national de l'ordre des médecins. Et il va nous parler de toutes les réjouissances avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, la publicité, la conduite à tenir en cas d'attaque sur les réseaux sociaux, ce qui embête un certain nombre de médecins, notamment avec les notations, leur réputation, et puis comment garder aussi avec les réseaux sociaux le secret médical. Merci.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement content d'être parmi vous. Et nous allons parler de réseaux. Cette fois-ci, ce ne sont pas les réseaux professionnels, mais les réseaux sociaux. Je regarde. Donc, vous les connaissez, vous reconnaissez quelques logos très habituels. Certains d'entre vous ont certainement des comptes sur ces réseaux sociaux. Je vais, comme vous l'a présenté Thierry, articuler cette présentation en quatre parties. Une partie qui est très importante, qui est cette notion d'information et de publicité que vous avez peut-être encore dans votre tête et qui, depuis 16 mois, est bousculée essentiellement par l'Europe et relayée par le Conseil d'État. Puis, quelque chose qui est important, parce qu'on en entend parler, mais on ne fait pas attention, puisque les attaques, c'est toujours contre les autres, jamais contre soi. Quelque chose qui se développe et dont il faut être particulièrement vigilant, c'est l'irréputation. Vous avez vu ces dernières semaines, derniers mois, un collègue psychiatre, certes, médecin, qui a eu des soucis et des déboires avec ce problème d'irréputation. Et puis, bien sûr, avec l'ordre des médecins, vous n'échapperez pas au secret médical, qui est quand même une des pierres angulaires de notre exercice professionnel. Le Conseil d'État, sur injonction de la communauté européenne, a fait 15 propositions, donc en juin 2018, pour de faire de nouvelles règles sur l'information et la publicité. Nous avions alors une législation, puisque le Code de la santé publique, c'est certes la législation, il y a une partie réglementaire, le Code de déontologie médicale, mais l'Europe considère que nous avions une vision très restrictive de l'information et publicité au niveau des ordres professionnels, donc pas seulement l'ordre des médecins et pas seulement les ordres de santé, et qu'il fallait changer les choses. Le Conseil d'État a proposé 15 idées qui ne sont pas des injonctions, mais qui sont des très fortes recommandations. La première, je ne vous citerai pas les 15, mais je vous citerai celle qui nous concerne, nous médecins. C'est prévoir la faculté pour les professionnels de santé, dans le respect des règles déontologiques, de communiquer au public des informations sur leurs compétences, sur leurs pratiques professionnelles, leur parcours professionnel, des informations pratiques sur leurs conditions matérielles d'exercice, ainsi que des informations objectives à finalité scientifique, préventive ou pédagogique, et scientifiquement étayées sur leur discipline et les enjeux de santé publique. Vous avez tous en tête, tout au moins pour les plus anciens, la plaque avec le nom, le numéro de téléphone, la spécialité, et on excluait tout le reste. Les ordonnances, même chose. Là, vous voyez dans les thèmes qui sont abordés dans cette première proposition, on parle de parcours professionnel, d'informations pratiques et matérielles sur l'exercice professionnel, et des informations objectives dans différents domaines, prévention, pédagogique ou scientifique. La cinquième, c'est supprimer l'interdiction de publicité directe ou indirecte dans le code de santé publique et poser un principe de libre communication des informations par les praticiens au public sous réserve du respect des règles gouvernant leur exercice professionnel. C'est-à-dire que le Conseil d'État dit « c'est open bar, sauf si votre ordre professionnel met des restrictions ». La sixième proposition qui complète cette cinquième, c'est imposer par des dispositions expresses que la communication du professionnel de santé soit loyale, honnête et ne fasse état que de données confirmées que ces messages, diffusés avec tact et mesure, ne puissent être trompeurs, ni utiliser des procédés comparatifs, ni faire état de témoignages de tiers. Donc là, on voit bien que le Conseil d'État lui-même met un certain nombre de restrictions. Donc, bien sûr, pas de propos injurieux, pas d'éléments non objectifs et pas de procédés comparatifs avec vos collègues voisins et pas utiliser les tiers, c'est-à-dire les patients ou d'autres professionnels pour alimenter. Bien sûr, tout ceci, ce n'est pas pour les ordonnances, ce n'est pas pour les plaques professionnelles, c'est pour les sites Internet qui se développent de plus en plus. Et il nous semble tout à fait logique que les gens qui ont une expérience, qui ont un parcours, à partir du moment où tout ceci est bien sûr réel, puissent en faire part. Inviter les ordres à encourager les professionnels de santé à davantage communiquer au public, conformément à leurs recommandations, de manière à éviter toute autoproclamation non vérifiée de spécialité, pratique ou parcours professionnel. C'est-à-dire que là, le Conseil d'État nous dit, à nous, ordre, faites quelque chose pour que vos médecins communiquent vers le public. Le but est l'information, développer l'information loyale envers le public de façon à éviter d'aller chercher des informations sur des sites qui ne sont pas forcément des sites professionnels avec tout ce que ça peut comporter comme fausse information. Inciter les professionnels de santé dans le cadre de leur formation initiale et continue à davantage utiliser les outils numériques pour communiquer sur leur expérience et pratiques professionnelles et intervenir efficacement sur tout support afin de répondre aux fausses informations ou approximation susceptible d'affecter la protection de la santé publique. Et on introduit là la notion de santé publique, et ça vient en relais de la présentation précédente, même si on ne s'était pas concerté, mais c'est bien la nécessité pour nos étudiants et nous, les professionnels, d'utiliser ces outils numériques de façon à permettre de communiquer sur ce que vous savez faire, sur ce que vous avez fait et sur votre expérience professionnelle. Toujours sur les problèmes d'information et publicité, au regard de ces injonctions du Conseil d'État, nous avons modifié le code de déontologie médicale pour mettre en cohérence les textes et la réalité contemporaine, tout en maintenant l'interdiction de toute publicité commerciale. Si vous devez retenir qu'une chose de mon intervention, c'est information, oui, publicité commerciale, non. Donc les articles, c'est le 13-19, donc le 13 sur l'information du public, le 19 sur l'interdiction de publicité commerciale, le 20 sur l'usage de son nom, le 79 les ordonnances, le 80 les annuaires, les plaques et l'annonce dans la presse. Juste un terme, le terme publicité pour le Conseil d'État et pour les juristes, quand on vous dit qu'il faut faire de la publicité, c'est-à-dire c'est rendre public. Ce n'est pas la réclame, comme pouvaient le connaître nos anciens ou nous-mêmes quand nous étions en culotte courte. Donc l'ordre a modifié ces articles, mais nous sommes en France, l'administration a une pesanteur, et donc ces articles modifiés ont été communiqués, on les a réalisés en octobre, il y a un an, l'année dernière. Ils ont été communiqués au ministère de la Santé, qui doit les relire, éventuellement les amender ou les améliorer. Et puis quand ils seront décidés, ils ouvriront le tiroir et transmettront tout ça au Conseil d'État. Conseil d'État qui relira ces articles et qui sera libre de modifier dans un sens ou dans un autre et de les publier par décret au Conseil d'État. Et à ce moment-là, ils seront applicables et auront valeur opposable. En dehors de ces articles, qui sont toujours très courts, ils font 4-5 lignes pour la plupart, L'ordre est tenu, et ça c'est ce que propose le Conseil, enfin, c'est ce que nous fait l'injonction du Conseil d'État, de faire des recommandations. Alors, je pense que quand même quelques-uns savent qu'il y a le code de déontologie et il y a les commentaires du code de déontologie, c'est-à-dire ce sont les explications pour le secret médical et assurance, secret médical et expertise, secret médical et enfant, etc. etc. Donc on explique, on décline pour être le plus pédagogique dans les commentaires. Mais là, ce n'est pas des commentaires, ce sont des recommandations et les juridictions qui seraient saisies pourraient se référer à ces recommandations pour apprécier ce qui est la limite entre publicité à visée informative, objective, qui, elles, seront autorisées, et la publicité à visée commerciale, qui sera toujours interdite. Bien sûr, on est en Europe. Bien sûr, il faudra une harmonisation. Ici, nous sommes dans le Grand Est, en Lorraine, mais dans le Grand Est. Et le Grand Est a cette particularité unique, c'est que nous avons quatre pays voisins, et que si les législations ne sont pas sensiblement les mêmes, il pourrait y avoir des mouvements de patients, voire de praticiens, entre cet espace européen et tout au moins les pays limitrophes. Voilà pour les modifications qui vont arriver. Il n'y a pas d'inquiétude, tout ce qui sera objectif sera autorisé. Nous demanderons quand même au CNP, et donc pour ce qui vous concerne, au CNP d'ophtalmologie de participer aux titres, diplômes qui sont obtenus. Bien sûr, les diplômes européens, français en particulier, seront reconnus. Après, il y a, vous le savez, vous pouvez aller passer un diplôme universitaire au Qatar. Qu'en est-il ? Est-ce que c'est quelque chose qui a une valeur scientifique ? Est-ce que ça a une valeur pédagogique ? On ne le sait pas, nous, Ordre des médecins. Et donc, ce sera votre Collège national professionnel d'ophtalmologie qui nous dira, ça, c'est un titre dont on peut faire valoir. Ça, c'est un titre à ne pas faire valoir. Sur les réseaux sociaux, vous les utilisez toutes et tous, je pense, peu ou prou, probablement à utilisation personnelle, mais peut-être aussi au niveau professionnel. Et de toute façon, les réseaux sociaux en utilisation professionnelle vont se développer. Il faut savoir que vos comptes sociaux, personnels ou professionnels, contiennent un nombre considérable de données et que ces données peuvent intéresser différentes personnes, soit dans un but commercial, soit dans un but dolosif. Et donc, il faut bien sûr veiller à sécuriser votre compte professionnel, votre compte sur le réseau social, personnel ou professionnel, pour éviter un piratage. Quelques règles rapides pour prévenir un piratage. Choisir des mots de passe complexes, différents et non signifiants. Ça, vous le savez. Je ne suis pas sûr que vous l'appliquiez vraiment. Sachez qu'il existe bien sûr des logiciels qui permettent de définir et de garder en mémoire ces mots de passe complexes. Il suffit de garder en mémoire le mot de passe pour ouvrir ce logiciel, ce qui vous permet après de sécuriser l'ensemble de vos mots de passe. Bien sûr, ne jamais communiquer vos mots de passe, mais c'est comme le numéro de carte bancaire, vous ne devez le passer à personne, normalement. Activer donc un dispositif d'alerte en cas d'intrusion, c'est tout simplement une double identification qui peut être un mot de passe, mais qui peut être aussi une empreinte digitale, qui peut être une reconnaissance faciale. Il y a différents niveaux, ce qui permet de mieux sécuriser. Rien n'est inviolable. Le but est de retarder le piratage, de retarder l'intrusion. Déconnecter à distance les terminaux obsolètes, c'est les ordinateurs qui tournent et que vous utilisez plus du tout. Donc, ceux-ci, il faut vite les débrancher, les fermer, notamment du fait de l'évolution du matériel informatique, notamment les smartphones, où le taux d'obsolescence est quand même très, très rapide. Et donc, ça vous permet de vous protéger. Désactiver les applications tierces. Il faut savoir que quand vous utilisez un logiciel informatique, quel qu'il soit, sur un smartphone ou un ordinateur, vous avez des fois des logiciels qui sont ouverts par ce logiciel principal, et donc il faut penser à les fermer. et puis régler vos paramètres de confidentialité. Ça, c'est en général assez facile, mais il faut penser à le faire. Voilà, avec ça, vous savez, le numérique, c'est comme la médecine. On prévient, on dépiste, on traite, il n'y a rien de nouveau. Comment repérer un piratage ? Ben, c'est quand vous tapez une, deux fois votre mot de passe et que vous êtes sûr d'avoir bien fait attention, surtout la deuxième fois, et que vous dites « ça passe pas, il n'y a pas de secret », à ce moment-là, vous vous êtes fait pirater. Les tweets ou des posts imprévus sont envoyés depuis votre compte. En général, je pense qu'ici, tout le monde a reçu un mail ou un SMS d'un collègue que vous connaissez, tout au moins qui est dans votre base de données, dans vos adresses de messagerie, vous disant « hello, j'ai un problème, peux-tu me contacter par mail, mais surtout pas par téléphone, j'ai perdu mon téléphone ou mon téléphone ne marche pas ». C'est toujours la même chose, à quelques variantes près, avec les fautes d'orthographe en plus. Et dans ces cas-là, bien sûr, la confraternité vous oblige tout de suite à appeler ce collègue, puisque vous avez son numéro de portable, et lui dire « j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu t'es fait pirater ton compte, et il part pour une journée de galère ». Mais je pense que c'est important de le faire cesser rapidement, puisque je vous expliquerai comment traiter un piratage. Donc les messages privés sont envoyés de façon non volontaire, ben ça vous en rendrez compte très rapidement. Et puis il y a des comportements inhabituels sur votre compte, quand on en arrive à la dernière solution, c'est-à-dire que c'est le réseau social lui-même qui vous envoie une notification disant que votre compte l'adresse électronique affectée au compte a été changée. Là, il est évident que si ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est que c'est un tiers. Que faire en cas de piratage ? Ben, immédiatement, il faut signaler le compte piraté au niveau de votre réseau social, demander une réinitialisation du mot de passe, donc ça se fait très vite, puisque, en général, une adresse mail, une adresse sur un réseau social est affectée à un numéro de téléphone, qui est le vôtre, et à ce moment-là, vous réinitialisez, ce qui arrête le piratage, donc qui permet de redémarrer normalement. Et puis, bien sûr, quand vous avez resécurisé, allez voir les rubriques de sécurité dont je vous ai parlé tout à l'heure et que vous aviez négligé quand vous avez ouvert votre compte initial. Voilà. Alors, obligatoirement, je pense même avec un peu de chance, si je faisais lever les doigts, je pense qu'il y en a quelques-uns qui se sont déjà fait pirater ici. Statistiquement, c'est incontournable. Maintenant, à partir depuis 5-10 ans et pour les années qui viennent, vous serez probablement, potentiellement piraté. C'était la bonne nouvelle du jour. Qu'est-ce que c'est que l'irréputation ? Eh bien, l'irréputation, c'est l'image numérique d'une personne sur Internet. Tout le monde a une irréputation, mais ce qui nous concerne ou ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est votre irréputation professionnelle. Première chose, il faut savoir que la liberté d'expression et d'opinion est un droit fondamental, et je vous ai recité différentes conventions ou déclarations qui réaffirment ce droit, c'est-à-dire que, très schématiquement, tout le monde a le droit de dire peu près n'importe quoi sur quelqu'un, sauf les injures, sauf la discrimination, les propos racistes, etc., qui peuvent être condamnés. Mais dire que vous êtes le plus mauvais ophtalmo qu'on a jamais rencontré, le patient ou la personne a le droit de le dire. Bien sûr, les abus pourront faire l'objet de sanctions, mais les sanctions sont longues à se dessiner, et de toute façon, ça ne restaure pas pleinement et entièrement votre irréputation. Toujours la même chose, comment maîtriser son irréputation ? Eh bien, par la prévention. Donc, ce que je vous incite, parce que vous n'êtes pas forcément sur un réseau social professionnel, mais allez tout à l'heure ou alors pendant le reste de ma présentation, si vous vous ennuyez, vous allez sur Google, vous tapez votre nom et votre prénom. Vous pouvez ajouter ophtalmo si vous voulez, mais même avec votre nom ou votre prénom, vous passez la première page, parce que la première page, c'est Doctolib, etc. Donc là, il y a peu de chances, il y aura des commentaires, mais il y a peu de chances qu'il y ait des attaques. Mais allez un peu plus loin et vous verrez des appréciations qui, des fois, sont quand même, la plupart du temps, élogieuses. Mais c'est comme les trains, on ne s'intéresse qu'aux trains qui arrivent en retard et donc on ne s'intéresse qu'aux réputations qui sont dolosives. Et puis, donc, à ce moment-là, si vous voyez sur un réseau social qu'il y a un avis défavorable, alors que vous n'avez pas de compte dans ce réseau social, la première chose à faire, c'est d'ouvrir un compte dans ce réseau social de façon à vous permettre de répondre à cet avis. Sachez qu'il existe maintenant, associé à la RCP, une assurance e-réputation qui permet, bien sûr, moyennant une surprime, de vous protéger, d'assurer une protection juridique. Et il existe des agences d'e-réputation qui, elles, peuvent gérer, qui surveillent et qui alertent très régulièrement sur votre e-réputation. Qu'est-ce qui se passe si vous voyez, à votre insu, une fiche professionnelle qui répertorie un certain nombre de renseignements professionnels? À ce moment-là, vous avez, on va dire, trois possibilités. Soit vous opposez, c'est-à-dire que c'est une fiche dont vous n'êtes pas à l'origine, hein, sur un réseau social. Vous pouvez bien sûr demander l'opposition, voire la suppression d'une fiche. Mais il faut savoir que vos données professionnelles sont soumises, d'ailleurs j'ai oublié un S, au RGPD. Le RGPD, c'est le Règlement général de la protection des données. Il est opposable en France depuis le 25 mai 2018 et il détermine, et ça c'est important dans vos activités professionnelles, tous les fichiers que vous avez, y compris des petits fichiers du genre les adhérents à Focal. Il ne faut pas oublier que ce fichier-là rentre dans le cadre du RGPD. Et je peux juste vous renvoyer sur le site du Conseil national. Vous avez des fiches qui ont été faites avec la CNIL et l'Ordre sur le RGPD, sur les annuaires, sur les réseaux sociaux, etc., pour vous donner des conseils. Vous pouvez toujours vous opposer a posteriori à l'exploitation de certaines données, mais il faut savoir que tout ce qui est public, notamment toutes les données qui sont sur le site du CNOM, puisque on peut trouver votre adresse, votre numéro de téléphone, votre nom, votre prénom, votre spécialité, mais également sur Amélie, toutes ces données qui sont publiques, bien sûr, vous ne pouvez pas vous y opposer dans d'autres réseaux. Quand vous opposez à une fiche qui est dolosive, conservez une trace, faites un mail, gardez-en, demandez éventuellement un avis de réception quand vous demandez au réseau social de supprimer cette fiche. Normalement, il a un délai de réponse qui est d'un mois maximum. Ce n'est pas toujours respecté. Et si ce n'est pas respecté, vous pouvez agir auprès de la CNIL ou par voie judiciaire, par un référé en justice. C'est ce qu'a fait notre collègue psychiatre sur la Moselle, qui a saisi en référé, et l'ordonnance de référé l'a débouté, notamment, puisqu'en matière juridique, quand vous alléguez quelque chose, vous devez prouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2-3 fiches disant que pendant les consultations, il était toujours sur son smartphone. C'est quand même pas vraiment agréable dans les séances de psychothérapie. Et donc, le juge lui a dit, mais prouvez-moi que vous ne regardez pas votre smartphone pendant les consultations. Donc, je vous laisse imaginer la difficulté, puisqu'il alléguait que ce n'était pas vrai. Donc, il fallait qu'il démontre que ce n'était pas vrai. Donc, c'est quasiment impossible. Alors, certes, c'est un jugement référé, mais je ne sais pas s'il ira au fond. Ça sera très intéressant, parce qu'il serait très intéressant de créer une jurisprudence à ce niveau-là. Mais sachez que ce n'est pas simple de faire respecter vos droits. Donc, d'où la nécessité d'être vigilant, d'aller régulièrement regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur votre réputation. Et puis, vous pouvez demander ce qu'on appelle le déréférencement d'une fiche. Ça permet non pas de supprimer la fiche, mais qu'elle ne soit plus indexée dans les moteurs de recherche. Donc, ce qui, bien sûr, limite la portée de cette fiche. Hein, donc, c'est bien ce que j'ai écrit en dernier. Le déréférencement supprime la page Internet de la liste des résultats sur la recherche. C'est-à-dire que si vous faites Google, vous ne trouvez plus cette fiche. Elle n'est plus référencée, mais elle existe toujours dans l'espace Internet. Donc, si avec son adresse, vous pouvez retrouver cette fiche, mais ça la rend quasiment plus lisibles. Les avis ou les propos d'internautes, alors ça, évidemment, ça peut nous concerner tous et vous concerner. Je ne sais pas quoi, vous êtes mauvais, il fait noir dans votre cabinet, enfin bref, tout ce qu'on veut. À ce moment-là, il faut immédiatement, premièrement, donc faire des captures de l'écran, mais en globalité, et en fonction de l'agressivité, on va dire, ou de la nuisance de cette fiche, vous avez plusieurs possibilités, soit s'attaquer au référencement, c'est-à-dire demander le déréférencement, soit essayer de voir l'auteur du commentaire pour voir un petit peu ce qui s'est passé et peser le risque engendré. Ce qui détermine, la stratégie à mettre en place. C'est compliqué quand on est professionnel de l'œil, on va dire. C'est difficile de perdre du temps à aller s'occuper de sa réputation et de faire les mesures. Donc dans ces cas-là, effectivement, peut-être que la solution, c'est d'aller vers une agence de e-réputation qui va gérer à votre place. Évidemment, vous vous doutez bien que tout ceci a un coût. Si vous avez donc ces propos, essayez d'avoir une adresse dans ce réseau social pour pouvoir répondre. Donc, créer un compte. Vous faut répondre, mais sans jamais renforcer la polémique, c'est-à-dire jamais le traiter de tête de quelque chose. Essayez de dire, écoutez, voilà, visiblement, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Ce que je vous engage, c'est à venir à prendre contact avec moi pour qu'on voit le problème. Essayez d'apaiser, ne pas relancer, puisque vous savez que la force ou la nuisance des réseaux sociaux, c'est les choses qui se relancent à l'infini. Plus les propos sont agressifs et violents, plus ça passe en boucle. Et si vous envoyez beaucoup de propos violents, ça va attirer l'œil sur cette fiche qui n'était peut-être pas vue par tout le monde. Et donc, vous aggravez le phénomène. Donc, pas d'attitude polémique. Ne pas nuire à l'auteur, parce qu'autrement, lui, il va se retourner contre vous en justice. Et surtout, ne jamais porter atteinte au secret médical. Je ne sais pas, supposons qu'il vous accuse d'avoir raté telle ou telle pathologie. Il ne faut pas répondre, oui, monsieur, mais du fait de votre diabète, de votre artérite et de je ne sais quelle prise de traitement, vous ne pouviez pas avoir les meilleures chances. À ce moment-là, il y a une violation manifeste et donc, en dehors de l'irréputation, vous aurez le plaisir de venir devant les chambres disciplinaires de l'Ordre des médecins. Et ce n'est pas du tout mon but de vous voir arriver. C'est bien pour ça que je vous donne ces conseils. Faites attention au secret médical. Après, donc, si vous n'arrivez pas, on va dire, à traiter avec le polémiste qui est en face de vous, si je puis dire, tout au moins en face de vous de façon dématérialisée, il faut demander donc le retrait de l'avis ou des propos. Puis, en cas d'échec, quelle action mettre en place? Eh bien, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire éventuellement à l'utilisation au service d'une agence de réputation. Ce que je peux vous inciter, c'est, dans ces cas-là, aller consulter sur le site internet de l'Ordre, préserver sa réputation numérique, donc c'est un peu tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, mais vous avez le détail des différentes actions en fonction de la portée que vous voulez donner à vos éléments. Et puis, dernier élément, la préservation du secret médical, je viens d'en parler, il ne faut pas l'oublier, le secret médical, c'est quand même un des piliers de notre exercice professionnel et on ne peut pas travailler sans secret médical. Tous autant que nous sommes, quelle que soit notre spécialité. Je vous ai rappelé un certain nombre d'articles par ordre d'ordre, si je puis dire. Donc le 226.13, c'est le code pénal qui concerne tous les professionnels et qui donc permet d'être puni éventuellement d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'article L1110-4 du Code de la santé publique qui vous est peut-être plus familier. Hein, donc toute personne prise en charge par un professionnel a droit au secret des informations la concernant. Et puis pour nous médecins, encore plus spécifiquement, l'article 4 du Code de déontologie médicale, le secret professionnel s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi, non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Sauf dérogation prévue par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne. Je trouve que l'article 4, dans le cadre de notre pratique professionnelle, nous exprime bien que c'est tout ce qui a la connaissance dans notre pratique professionnelle. Qu'est-ce qu'une donnée de santé ? Il y a plusieurs types de données de santé. Il y a les données d'identification, c'est le nom, c'est le prénom, c'est le numéro d'identification, numéro de sécu. Ce sont les données d'information sur la vie personnelle, c'est-à-dire le numéro, enfin, l'AMO, l'adresse et le numéro d'AMO. Éventuellement, l'AMO, c'est l'assurance maladie obligatoire, et l'AMC, l'assurance maladie complémentaire, c'est-à-dire les mutuelles, pour faire simple, le nombre d'enfants. Ce ne sont pas des données médicales, mais c'est des données d'information sur la vie personnelle de vos patients. Et puis, bien sûr, ce qui est le plus important en quantité et en qualité, c'est les informations médicales sur la santé de vos patients. Vous devez les informer que vous traitez, que vous utilisez des données de santé. Dès qu'on a un ordinateur, que ce soit d'ailleurs votre secrétariat ou vous-même, vous devez les informer par une affiche dans la salle d'attente. C'est sur le site de la CNIL. Et vous devez aussi les informer de leurs droits au regard du RGPD, du Règlement général de protection des données. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de l'Ordre. C'est des petites fiches pratiques. Il y en a 6 dans différentes cas de figure. Ça vous permettra, que ce soit pour, par exemple, la prise de rendez-vous par un secrétariat à distance, il y a des conseils. Il y a des conseils sur les secrétariats par Internet, etc., etc., pour votre smartphone. Tout ceci est bien fait, se lit très facilement et donne quand même des éléments. Et puis, bien sûr, sécuriser vos données de santé, donc par la carte professionnelle de santé, par des mots de passe, par du chiffrement, tout ce que je vous ai déjà expliqué, tout ce qu'on trouve assez facilement, qui certes complique votre accès quotidien à la base de données, à votre travail, mais qui est quand même une sécurité pour les patients, puisque ce sont leurs données de santé. Vous avez vu tout à l'heure, on vous a exposé l'intérêt d'avoir des données de santé sur un domaine très précis, vous n'avez pas idée de ce que contient le data de votre logiciel médical, ne serait-ce que l'âge du patient, le sexe est peut-être moins important, mais les médicaments qu'il prescrit, les mutuelles, les assurances privées, serait très friande de ce genre de données, ces données toutes simples. Alors après, quand vous avez des données de pression, etc., vous comprenez bien que tout ceci a de l'importance et qu'il faut les protéger. Et puis, vous pouvez garder vos données dans votre cabinet médical. Il ne faut pas oublier, bien sûr, d'en faire une sauvegarde. Ça, c'est impératif. Il faut que la sauvegarde ne soit pas, enfin, au moins une base de données de cette sauvegarde soit stocké à distance. L'incendie ne touche pas que les eaux, le dégât des eaux non plus, et le vol non plus. Donc pensez à ça. Et puis l'autre solution qui est plus confortable, qui a un coût aussi, c'est les hébergeurs de données de santé. Alors ces hébergeurs doivent être agréés et qui permettent de passer par... Alors il y a un contrat type sur le site de l'Ordre pour pouvoir héberger vos données. Eux assurent l'hébergement, vous transmettez, on va dire, à flux permanent, à flux tendu, vos données. Ils les stockent et ils en assurent et ils ont la responsabilité d'en assurer la sauvegarde. C'est quelque chose qui est pratique, qu'il faudrait développer, qui est encore, je pense, confidentiel pour l'instant, puisqu'une partie de votre responsabilité sur la sécurité des données est transférée vers un professionnel dont, par définition, c'est le métier, dont il assumera la responsabilité tant devant les juridictions pénales que du point de vue civil. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je reste à votre disposition.
Merci Gilles pour ce panorama très complet. Vous avez sans doute des questions à poser à M. Munier.
Oui. On n'entend pas. Descendez un petit peu, s'il vous plaît. Ah ben voilà, il y a un micro.
Bonjour. Nous avons suivi de près l'affaire du psychiatre en question dont vous parliez, puisqu'on est de Metz et mon compagnon est avocat. Et donc, mon compagnon me disait qu'il ne fallait surtout pas porter plainte en référé, parce qu'en référé, c'est au médecin de porter la preuve que ce qui est dit n'est pas vrai. Et donc, il fallait porter plainte autrement en tribunal civil. Les avocats actuels ont tendance à faire porter plainte à leurs clients par le système des référés. Pour une chose très simple, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Mais il faut faire une procédure plus longue pour avoir gain de cause.
Alors là, je vous remercie pour votre intervention. Effectivement, c'est un référé. Alors, on ne sait pas si le médecin ira au fond, c'est-à-dire le référé, c'est pour l'urgence. Le fond, c'est pour le reste, pour juger. Ça risque bien sûr d'être plus long. Notamment, il y aura, comme toujours en France, voire au moins deux niveaux de juridiction, de première instance et un appel, voire une cassation en Conseil d'État. Et au-dessus de la cassation en Conseil d'État, vous avez encore la Cour de justice européenne, c'est-à-dire qu'au bout du bout, ça peut aller très long. Ce qui marche, ce qui semble bien marcher, qui est plus rapide, c'est d'avoir une assurance sur ce problème de lit, qui vous assure une assurance juridique sur l'irréputation, parce que l'assurance va vous demander déjà un certain nombre de sécurités, donc ça va déjà augmenter votre sécurité, et eux, ça leur diminue leur risque, ce qui est bien compréhensible. C'est comme une assurance vous demande de mettre une porte blindée, c'est plus difficile à violer. Donc cette assurance est intéressante, puisque vous allez avoir des conseils de sécurité, et s'il y a un problème, c'est ces assurances-là qui vont négocier avec le réseau social, que ce soit Google, que ce soit Twitter, etc. Et la puissance de ces assurances fait qu'ils arrivent à trouver un arrangement très vite, c'est-à-dire que face à un poids comme pourrait être AXA, pour ne pas le citer, Google ne veut pas prendre de risques pour de toute façon payer, et donc très vite ils vont déréférencer, ce qui va rendre service. Et puis sachez en plus que dans les procédures judiciaires, si l'on prend Google, le Google qui traite ce problème des fiches est en Irlande. Et oui, vous savez, les problèmes des taxes et du GAFA. Donc évidemment, ils sont légèrement plus compétents que nous en matière juridique et en matière de protection. Leur chiffre d'affaires n'est pas non plus le même. Donc, il est évident qu'eux prennent des précautions. Donc, c'est très compliqué. Je pense que, alors, il ne faut pas non plus dramatiser. Je veux dire, ces attaques ne sont pas légion. Quand on voit le nombre d'actes que l'on fait tous les jours en France, que l'ensemble des médecins font tous les jours en France, ces attaques sont relativement rares. Certaines sont quand même relativement minimes et ne portent pas, on va dire, à préjudice, du genre « il est encore en retard ». Vous pouvez très bien répondre en disant que vous avez eu une urgence, que etc., etc. Ça ne va pas vous porter un préjudice. Après, il y a des attaques qui sont quand même beaucoup plus attentatoires à la dignité du médecin. Et là, c'est difficile de les laisser passer. Il y en a d'autres qui sont dolosives sur le plan professionnel. Mais n'hésitez pas, je crois qu'il faut y réfléchir. Et cette solution d'assurance irréputation, surtout dans des cabinets de groupe, permet de toute façon, puisque le système informatique est le même, permet très sérieusement de réduire les coûts. De toute façon, on a bien une assurance automobile, vous allez me dire que c'est obligatoire. On a bien une assurance en responsabilité civile professionnelle, c'est obligatoire tant du point de vue déontologique que du point de vue juridique. Mais je pense que la ceinture de sécurité, c'est obligatoire, mais maintenant, ça ne vient plus à l'idée de personne de rouler sans ceinture de sécurité.
Une autre question, je pense que ça sera la dernière.
Je voulais poser une question très naïve. Je suis juste là, de l'autre côté. De l'autre côté, voilà. Ah oui. Bonjour. Je vous remercie pour votre présentation. Et je voulais poser une question extrêmement naïve d'une ophtalmo qui a démarré bien avant ses réseaux sociaux et qui, de surcroît, ne fait partie d'aucun réseau social, par un choix tout à fait volontaire. Donc, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, les médecins avaient tous une réputation. Et on entendait tous parler, celui-là, c'est le plus mauvais, tu vas chemin. Bon. Et pour autant, le médecin ne réagissait pas. Donc, vous avez en partie répondu à ma question, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire de rebondir sur ces commentaires qui, comme vous l'avez dit, ne risquent qu'une seule chose, c'est en fait d'amplifier une phrase qui aurait pu être totalement anodine. Moi, j'aurais plutôt envie de dire, si quelqu'un me critique, d'abord, il faut que je le sache, je ne le saurais peut-être pas parce que je ne suis pas sur le réseau social. Et deuxièmement, si je l'apprends, je ne peux pas l'empêcher. Les gens ont toujours eu des opinions et ils veulent l'exprimer. Et je me demande si ce n'est pas plus dangereux d'aller lutter contre ça que finalement de faire le dos rond.
Probablement que je n'ai pas été assez complet parce qu'il faut bien sûr essayer de respecter le temps. Oui, effectivement, dans le temps, il y avait la haute réputation, hein, la réputation orale que vous évoquez. Évidemment, il y avait un cercle, on va dire, relativement restreint puisque les gens portaient ce message qu'à des gens qu'ils connaissaient, famille, voisins, patients dans la salle d'attente, enfin on peut imaginer ce genre de choses. Avec le numérique, la diffusion est quand même beaucoup plus large et donc c'est un peu plus embêtant. Mais j'ai bien dit qu'il fallait analyser la réponse à adopter. J'ai pas dit que systématiquement il fallait y répondre. Il faut voir, c'est comme l'utilisation de l'arme nucléaire, quand on se fait attaquer avec des sabres, on n'utilise pas l'arme nucléaire. Donc je pense qu'il faut peser, jauger, effectivement, et je l'ai dit, éviter de surenchérir, notamment de manière polémique, parce que vous allez avoir un effet d'emballement qui, alors qu'il était relativement circonscrit, va mettre le feu. Donc, voilà. Alors, par contre, vous n'êtes pas sur un réseau social, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais par contre, allez voir sur Google pour voir ce qu'on dit de vous, et puis, je pense quand même que c'est quand même très bénéfique, parce qu'en général, il y a quand même plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs. Et des fois, ce n'est pas plus mal.
Question, voilà. Une dernière question. Simplement, je fais une association d'idées. Les attaques sur les réseaux sociaux sont dirigées contre le médecin. A contrario, et dans un petit peu un autre ordre, quelle attitude adopter sur les patients qui n'honorent pas leur rendez-vous?
On n'est plus dans le domaine numérique puisque le patient est bien réel ce jour-là. Enfin, il est bien réel mais absent. Le problème des lapins, tel qu'on en parle dans la profession, c'est un vrai problème puisque je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite. Sans raconter de bêtises, mais de mémoire, c'est 16 000 lapins par jour en France. C'est-à-dire que 16 000 personnes ne peuvent pas accéder à des soins quand on sait... Et ça, ce n'est pas une découverte, la difficulté pour les usagers du système de santé d'accéder aux soins. Pour l'instant, il y a différentes solutions, sauf le cas d'urgence et le devoir d'humanité, c'est l'article 47 du Code de déontologie médicale, vous pouvez toujours arrêter vos soins. Je pense pour l'instant que c'est la méthode la plus efficace, puisque... Globalement, je ne pense pas que en ophtalmologie, certains confrères soient au SMIG, que vous avez tous suffisamment de patientèle, voire vous n'arrivez pas à répondre à la patientèle. Donc quand vous en perdez un, ou quand vous en luxez un, vous en avez 10 qui peuvent prendre la place. Donc je crois que c'est un problème de respect. Vous respectez le patient en lui donnant les meilleurs soins possibles, et le patient doit vous respecter, notamment en arrivant à l'heure, alors sauf cas exceptionnel, bien sûr. Je pense que c'est nécessaire. Ça sera en dehors du PV. Personnellement, chez moi, c'est tolérance zéro. C'est-à-dire qu'un patient qui rate un rendez-vous et qui ne s'excuse pas, parce qu'il peut y arriver quelque chose, mais qui, 2 heures après ou le lendemain matin, dit « Ah, je suis désolé, j'ai oublié, j'ai eu un imprévu », bon... C'est bien, à partir du moment où ça ne se renouvelle pas. Mais de toute façon, dès que ça se produit, c'est plus de rendez-vous. Voilà, et on lui indique qu'il peut récupérer son dossier médical.
Est-ce qu'il est judicieux ou dangereux de le signifier par courrier?
Si vous ne le prenez plus en charge, il faut le signifier par courrier. Vous envoyez une lettre au patient, suivant le patient, vous l'envoyez en courrier simple ou en courrier recommandé. Vous lui envoyez une lettre disant que, conformément à l'article 47 du Code de déontologie médicale, vous ne souhaitez plus le prendre en charge, vous n'avez pas à justifier. C'est raison professionnelle ou personnelle. Donc vous n'avez pas à justifier. Vous dites juste que vous ne le prenez plus en charge, que vous restez à sa disposition pour lui communiquer la copie de son dossier médical. Alors, s'il y a quelque chose d'urgent, il faut quand même donner un minimum d'informations aux collègues qui va leur prendre en charge, parce que là, on vous dira que vous n'assumez pas la continuité des soins. Mais quand ce n'est pas quelque chose d'urgent, vous lui dites qu'il se réadresse à votre secrétariat pour avoir le dossier médical. Et cette lettre, vous en faites copie, que vous transmettez à votre conseil départemental de l'ordre des médecins. Et je vous rappelle que les frais de copie d'un dossier sont facturables au prix de la photocopie et au coût de l'envoi par lettre commandée avec accusé de réception.
Je vous remercie.
Alors, pour compléter, le samedi dernier, à une université d'été, notre ministre a été interrogée sur le même sujet et elle a dit que c'était la maltraitance des professionnels. Donc, c'est des mots assez forts qui vont dans le même sens.
Oui, c'est intolérable. Enfin, je veux dire, voilà, quand on sait que des personnes attendent des soins et que certains ne viennent pas pour des motifs futiles, alors que maintenant tout le monde a un smartphone, tout le monde est capable de mettre une alerte. Enfin, je veux dire, tout ça, bon, c'est quelques patients, il ne faut pas se le cacher, c'est déplorable. Maintenant, la ministre, en disant que c'est une maltraitance, elle n'a toujours pas réglé le problème.
Ouais.
Enfin, il n'y a pas que
ça. Et nous, c'est assez important, c'est à peu près 3 à 10 patients par jour. Hein. Donc, ce n'est pas négligeable sur les volumes hein, et sur les délais de rendez-vous.
Ah oui, tout à fait.
Bien, je crois qu'on va clôturer cette journée. Merci, Gilles. Je vous rappelle que ce soir, il y a un... Merci à tous les orateurs de la journée aussi. Il y a un repas de gala qui est prévu à partir de 20h à l'impromptu. Oui, bien sûr, pour ceux qui sont inscrits. L'impromptu, donc, qui est place Henri Mangin, 5 minutes à pied d'ici. L'entrée se fait rue Saint-Dizier. Vous venez avec votre badge qui sert de reconnaissance. Il y a un gardien à l'entrée. Et donc, c'est en fait le marché couvert. C'est un terrain du marché couvert. Bien sûr, uniquement pour ceux qui sont inscrits. Merci, bonne soirée et à demain.